Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient dans un instant. Ce sont vos questions à la rédaction. C'est votre rendez-vous privilégié avec les journalistes d'RFI. C'est l'occasion, vous le savez, de nous appeler où que vous soyez à travers le monde. Vous nous rejoignez et vous nous posez vos questions pour mieux comprendre l'actualité. S'il vous manque des clés, des repères pour décrypter tous les sujets que nous traitons dans nos différents journaux, et bien surtout, abusez du téléphone. N'hésitez pas, 33 9 693 693 70, 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Et on commencera d'ailleurs l'émission avec des questions sur le Mali. Théâtre, vous le savez, ces trois derniers jours, d'un attentat à Bamako et d'une attaque à Kidal. Dans 30 minutes, ce sera notre débat du jour et nous lancerons le débat sur le dossier Thomas Sankara, car après des années de procédure, eh bien la famille de l'ancien président du Burkina Faso va enfin pouvoir exhumer et expertiser la dépouille de Thomas Sankara. 27 ans après sa mort, personne ne sait si la tombe qui est présentée comme celle de l'ancien président est bien celle de Thomas Sankara. On va en parler ensemble. En tout cas, la veuve exige toujours l'ouverture d'une enquête pour élucider les circonstances de son assassinat, savoir qui a donné l'ordre et qui a tiré sur son époux. Alors, connaîtra-t-on un jour la vérité sur la mort de Thomas Sankara? 33 9 693 693 70. Et le débat a déjà commencé sur notre page Facebook RFI Appel sur l'actualité. Je lirai évidemment quelques-unes de vos réactions tout à l'heure pour alimenter le débat. D'abord donc vos questions sur le Mali où hier un camp de l'ONU à Kidal dans le nord a été attaqué faisant 3 morts. Vendredi soir, un attentat dans un restaurant de Bamako a fait 5 morts et cette dégradation du climat sécuritaire intervient une semaine après la signature par le gouvernement malien d'un accord avec les groupes armés du Nord, un accord de paix et de réconciliation. Bonjour Christine Muratet.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. Plusieurs questions sur ce projet d'accord paraffé donc il y a maintenant 8 jours à Alger où se sont déroulées ces négociations. Bonjour Boubacar.
Bonjour Juan Gomez.
Vous êtes à Gao, au Mali, on vous écoute.
Oui, c'est concernant l'accord d'Alger qui en ce moment crée une tension très vive dans la ville de Gao. Parce que les jeunes ne comprennent pas pourquoi le mot Azawad est employé dans cet accord. C'est pourquoi j'aimerais avoir des éclaircissements sur cette question. La question est la suivante. L'accord dit que l'Azawad est une entité humaine. Est-ce que sa superficie géographique est déterminée ou est-ce qu'elle couvre les 3 régions du Nord?
Alors, qu'est-ce qu'on entend exactement par Azawad? Rappelons que plusieurs mouvements du Nord réclament l'autonomie de l'Azawad. Dans l'accord, l'Azawad est présenté comme une réalité humaine, comme le disait à l'instant Boubacar, mais aussi comme une réalité socioculturelle, mémorielle et symbolique. Qu'est-ce que l'Azawad?
Alors, c'est intéressant de réagir directement sur les mots de Boubacar qui nous dit « Agao, ça fait réagir ». Et oui, c'est un mot qui actuellement, et depuis 2 ans, en fait, cristallise tous les fantasmes, tous les espoirs pour certains, toutes les craintes aussi. On le voit à Agao, à Bamako, dans le sud du Mali, parler d'Azawad, c'est totalement tabou. On est immédiatement qualifié d'ennemi du Mali lorsque l'on parle de l'Azawad pour signifier le nord du Mali. Et puis au nord, c'est l'expression, au nord précisément, en particulier, particulièrement dans la région de Kidal, c'est l'expression de ralliement à un ensemble géopolitique très marqué par l'indépendance et pour le moins par une large autonomie. Alors, Juan et Boubacar, sans faire un cours d'histoire sur l'Azawad, historiquement, cette notion, elle renvoie quand même à une notion de territoire, un territoire de pâturage, de transhumance qui se situe entre Tombouctou et Arouan. Mais en fait, cette notion, elle fait son apparition dans le débat identitaire dès les années 90,
ah oui,
via les mouvements rebelles déjà, qui appellent les 3 régions du Nord, donc Tombouctou, Gao et Kidal, région de l'Azawad. Et cette notion, elle apparaît en tant que telle déjà dans le pacte national de 92 qui reconnaissait, pacte qui a été signé par les deux parties, y compris par Bamako, qui reconnaissait la possibilité à une localité de se nommer Azawad. Alors, elle revient en fanfare, cette notion d'Azawad, en 2011, avec le MNA, Mouvement National de l'Azawad, qui était un mouvement en fait, qui était une association autorisée, qui était une association qui réfléchissait au devenir du nord du Mali. Et puis, la création du MNLA, Mouvement National de Libération de l'Azawad, fin 2011, qui revendique, elle, l'indépendance de l'Azawad, des trois régions, Kidal, Gao et Tombouctou. Et c'est à partir de là que le terme Azawad va cristalliser toutes les oppositions.
Et ce terme, Christine, fait bien partie du projet d'accord de loi discuté à Alger.
Et oui, malgré les réticences des autorités maliennes, malgré les réticences aussi des mouvements armés pro-Mali, l'appellation a été retenue, donc comme vous le disiez, Azawad, comme réalité socioculturelle, mémorielle et symbolique partagée par différentes populations du nord du Mali, aussi réalité humaine. Et le texte précise en fait que cette appellation s'entend dans le respect du caractère unitaire de l'État malien et de son intégrité territoriale, ce qui justement devrait calmer les
appréhensions.
Voilà.
De Boubacar qui nous écoute et qui nous appelait donc de Gao. On précise, Christine, que le texte ne parle ni d'autonomie de l'Azawad, ni de fédéralisme et encore moins évidemment d'indépendance.
Sûr.
Autre question, Mohamed, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, on vous écoute. Très bien, et vous ?
Vous savez, il y a 10 jours, le gouvernement malien a paraphé un document avec les Oumas armées du Nord. Dans ce document ressort l'appellation Azawad.
Mm-hmm.
Voilà. Je voudrais savoir, est-ce que cette appellation Azawad n'aura pas de conséquences sur les populations du Mali dans le futur ?
Ah, quelles pourraient être les conséquences de l'utilisation de ce terme Azawad ?
Mais en fait, la notion et ses utilisations restent très vagues, malgré le paraphe de ce projet d'accord de paix dans lequel cette notion existe. Car le texte de projet d'accord indique que cette notion très controversée, c'est les termes du projet d'accord, doit faire l'objet d'un débat politique entre Maliens. Donc, l'accord préconise que ce débat ait lieu dans le cadre d'une conférence d'entente nationale qui devra se tenir dans une période transitoire qui devrait partir d'ici quelques mois, quoi, à partir de la signature de l'accord fin mars. Et les parties pourront alors donner plus ou moins d'importance à cette notion. À ce stade, quand on pose la question à la coordination des mouvements de l'Azawad, ils nous disent qu'ils sont satisfaits que cette notion soit prise en compte et ils évoquent par exemple la possibilité pour la future région de Kidal, dont le président pourrait être élu par suffrage universel, d'après le projet d'accord, par exemple de baptiser la région de Kidal, région Azawad, c'est une des possibilités, sans qu'encore une fois ça ait de conséquences politiques sur l'appartenance de cette région à l'ensemble territorial du Mali.
Ah, vous parliez à l'instant de la coordination des mouvements de l'Azawad, la CMA, qui regroupe plusieurs mouvements en faveur de l'autonomie du Nord. On a justement une question de Youssoufa. Bonjour Youssoufa.
Oui, bonjour.
On vous écoute, soyez le bienvenu.
D'accord. Donc, ma question était de savoir comment ces mouvements armés vont pousser les populations du nord de Kidal à Gao en passant par Tombouctou.
Alors, comment va-t-on consulter les populations du nord ? On rappelle que le projet d'accord de paix a été paraffé donc par les autorités de Bamako et par la moitié des groupes armés du nord. En revanche, la coordination des mouvements de l'Azawad, dont on parlait un instant, Christine, a demandé un délai de quelques jours, finalement de quelques semaines, pour expliquer le contenu de ce document aux populations. Cette consultation doit d'ailleurs commencer demain. C'est ça ? Comment ça va se passer alors ?
Alors, c'est pas une consultation des populations du Nord, mais des composantes populaires proches de cette coordination des mouvements de l'Azawad. En fait, la CMA fait venir à Kidal, avec le soutien technique de la MINUSMA, et d'ailleurs après les événements d'hier, il y avait quelques inquiétudes pour savoir si tout le monde pourrait arriver à Kidal, et je pense qu'on en saura plus dans la journée. Donc la CMA devrait rassembler à Kidal tous les chefs politiques militaires des différents groupes de la coordination, c'est-à-dire MNLA, HCUA, MAA, et mouvements sédentaires qui se sont ralliés à la CMA. Mais ce n'est pas un congrès, c'est une concertation avec donc des acteurs. Il y aura des chefs de tribus, de factions de la région de Kidal, de certains viendront de Gao, d'autres de Tombouctou, de Bamako. Et puis il y aura également les représentants des réfugiés des camps de Mbera en Mauritanie ou de Mentao au Burkina. Et d'ailleurs, les réfugiés ont déjà fait connaître par des lettres ouvertes la position des populations proches de la CMA. Position sans ambiguïté, non au texte, non à la signature du projet d'accord de paix. Donc voilà, encore une fois, c'est pas consultation de tout le Nord, c'est pas un référendum des populations du Nord.
Effectivement. Autre question toujours sur ce dossier qui a suscité beaucoup de réactions au Standard ces derniers jours, et on le comprend, c'est un dossier crucial pour l'avenir du Mali. Khalifa, bonjour.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes à Bamako.
Allô, Juan, là, c'est moi. Oui, je suis à Bamako.
Allez-y.
À la salle de Bamako, ouais. Alors, ouais, j'ai appris que la CEMA a refusé de paraphier les documents. Moi, ma question est de savoir quelles peuvent être les conséquences possibles sur la validité des documents au cas où la CEMA a refusé définitivement de les paraphier.
Alors, si jamais donc la SMA, cette coordination des mouvements de la ZAWAD, CMA, autant pour moi, refuse de signer l'accord après consultation des différentes composantes populaires, que peut-il se passer? Quelles peuvent être les conséquences, Christine?
Bah écoutez, la conséquence serait grave. Hein. Les dirigeants de la CMA disent en avoir conscience, d'ailleurs. Les dirigeants de la coordination prendraient le risque, d'une part, de mettre tout un processus de réconciliation à plat. Alors, quand même, ce processus qui dure depuis plus de 2 ans et demi. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même une responsabilité importante. Il prendrait le risque aussi de s'exclure de ce processus, c'est-à-dire de prendre la responsabilité d'une instabilité profonde et durable de la zone. Alors vous me direz, elle y est déjà, cette instabilité, mais ça peut être pire, malheureusement. Prendre le risque aussi de se couper de tout soutien de la communauté internationale. Il faut voir quand même, ces dernières années, la communauté s'est beaucoup investie sur cette recherche d'accords de paix, depuis les pourparlers de Ouaga. La communauté internationale a rendu possible le dialogue entre les deux parties. Elle a su intervenir à temps pour aussi arrêter les écarts dans les violations de cesser le feu. Et elle a plus d'une fois éteint le feu sur le terrain à ses risques et périls. On le voit encore ce week-end. La CMA sait tout cela. Elle sait aussi qu'elle est, comme elle le dit elle-même, entre le marteau et l'enclume. Il y a donc ce risque d'être ostracisée en cas de non-signature, mais aussi... Si elle signe sans contrepartie, elle prend, dit-elle, le risque de se mettre à dos une partie non négligeable de la population pro-autonomie et qui soutient ces mouvements jusqu'ici, mais qui pourrait se radicaliser. Et dans ce cas-là, Juan, tout est à craindre. Une nouvelle rébellion, le départ d'une partie de la jeunesse vers les mouvements djihadistes qui n'attendent que ça. Encore une fois, ça, il faut en avoir conscience. La situation est vraiment très, très délicate pour le Nord et tout est à craindre.
Et on suivra ça évidemment sur les antennes d'RFI. Merci beaucoup Christine Muratet d'être venue répondre à quelques-unes des questions concernant cet accord de paix paraphé il y a maintenant 8 jours. Et on attend maintenant la décision donc de la CMA. 33 9 693 693 70. Il est 8h22 à Ouagadougou. N'oubliez pas dans 20 minutes maintenant notre débat sur l'affaire Thomas Sankara. Connaîtra-t-on un jour la vérité sur la mort de l'ancien président burkinabé assassiné en 1987, vous nous rejoignez et on vous donnera la parole. D'autres questions, on va s'intéresser aux tensions entre le Venezuela et les États-Unis. Bonjour Soulé.
Oui, bonjour Jean Gomez.
Vous êtes à Cotonou au Bénin, on vous écoute.
Exactement, bonjour Jean Gomez. Bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de RFI.
Merci pour eux.
Jean, le président Nicolas Maduro de la République du Venezuela annonce avoir arrêté des ressortissants américains espions sur son sol. Alors, Jean, j'ai deux questions principales à poser. La première question, qui sont les personnes arrêtées et quels sont les éléments de preuve que détient le Venezuela?
Ah, effectivement. Alors, on va déjà répondre à ces questions avec Raphaël Morand, qui est journaliste à la rédaction Amérique latine d'RFI. Bonjour Raphaël.
Bonjour Juan.
Merci de nous rejoindre. Nicolas Maduro accuse effectivement les États-Unis d'espionnage. Il a d'ailleurs récemment annoncé l'arrestation d'un nombre indéterminé d'Américains accusés de préparer un complot pour renverser son gouvernement. Qui sont les personnes arrêtées? Déjà, sait-on combien de personnes ont été arrêtées?
Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un pilote américain d'origine latino-américaine qui a été arrêté aux États-Unis. Selon les informations qu'a données la police, il détenait plusieurs passeports, mais on n'en sait pas vraiment plus. On ne sait même pas si c'est un pilote commercial ou militaire. Par ailleurs, 4 missionnaires évangéliques ont été expulsés du Venezuela à la même période, fin février, après un interrogatoire de plusieurs jours pour répondre d'accusations d'espionnage. Et déjà, en 2013 et 2014, même histoire, 3 diplomates américains, cette fois-ci, avaient été expulsés du pays. Alors là, c'était un petit peu plus précis. On les accusait de s'être réunis avec des étudiants d'opposition, trois diplomates également, après des réunions avec des opposants, avaient été expulsés du pays. En fait, ces dénonciations ont surtout un retentissement médiatique. On n'a pas énormément de preuves précises. Ledesma, José Antonio Ledesma, l'ancien maire de Caracas, a été arrêté sur la base d'un document pour la transition, un document bien connu qui a été publié dans toute la presse et qui n'est pas Papucci. C'est un document qui propose une alternative politique à la crise. Maduro a présenté par ailleurs la semaine dernière un enregistrement dans lequel on entend une adresse à la nation qui aurait servi après un supposé coup d'État. Là encore, difficile de faire la part des choses.
Hein. Ce n'est pas la première fois en tout cas que le Venezuela accuse les États-Unis d'essayer de fomenter un coup d'État. D'ailleurs, par le passé, si on s'en souvient bien, je crois que c'était en 2002, les États-Unis avaient clairement soutenu un coup d'État contre Chavez.
Tout à fait. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2002, Chavez a été sorti du pouvoir pendant quelques jours et les États-Unis se sont empressés de reconnaître le gouvernement, le nouveau gouvernement vénézuélien qui était un gouvernement putschiste. Donc, les chavistes sont encore un peu traumatisés par cela. Et puis, il y a une raison historique aussi en Amérique latine, en Amérique du Sud. On a connu des coups d'État. Il y a eu des coups d'État de la part de la CIA. Donc, le gouvernement surfe aussi là-dessus, sur cette peur-là, sur ce traumatisme. Et c'est aussi un discours qui satisfait une partie de la gauche radicale. Et plus récemment, on sait qu'il y a des secteurs qui rêvent de voir tomber Nicolas Maduro au Venezuela. Il y a une partie de l'opposition qui demande à ce que le président démissionne, qu'il le proclame ouvertement à travers des manifestations, notamment les deux leaders d'opposition qui sont aujourd'hui derrière les barreaux.
Ouais, d'autant que, précisons que pour alimenter la polémique, l'opposition accuse Maduro d'être responsable aussi de la détérioration économique du pays. Rien ne va plus depuis que les cours du pétrole chutent. Hein.
Oui, bien sûr. Alors on est dans un contexte économique extrêmement difficile et c'est sûrement pas anodin qui est cette augmentation des tensions entre Washington et Caracas.
À suivre. Merci beaucoup d'être venu répondre à Soulé. Bonne journée, Raphaël Morand. On accueille Antoine Grenier du service des sports. Bonjour Antoine.
Bonjour Juan.
On va parler football et on s'intéresse au championnat français, la Ligue 1. Joseph, bonjour.
Oui, bonjour Juan.
On vous écoute. Vous avez des questions sur Caen?
Oui, effectivement, j'ai une question sur Caen. Avant la trêve hivernale, l'équipe de Caen était dernier du classement.
Oui.
Et après la trêve hivernale, elle enchaîne des victoires et s'est maintenue à la 12e place suite à la 27e journée. Aujourd'hui, elle est 14e. Ma question est de savoir quel est cet enchaînement de victoires après la trêve hivernale.
C'est presque un miracle, hein, Antoine Grenier. C'est vrai que Joseph a raison de s'interroger. Il y a eu 7 matchs sans défaite, 6 victoires. Malheureusement pour Caen hier, ça s'est mal terminé. Enfin samedi, ça s'est mal terminé face à Bordeaux. Mais quand on regarde les statistiques, on peut dire que Caen est actuellement quasiment la meilleure équipe du championnat français.
Elle est bien loin, l'équipe qui avait enchaîné une série de 11 matchs sans victoire. Ça, c'était il y a très très longtemps. Effectivement, Caen est actuellement la meilleure équipe de Ligue 1 sur la phase retour. Elle est première du championnat entre la 20e et la 28e journée. Comment ça s'explique? On va faire assez rapidement. Un petit coup de chance et un mercato réussi. Le mercato réussi, c'est le recrutement de deux joueurs qui comptent énormément dans la réussite actuelle du club. Emiliano Sala, l'attaquant de Bordeaux, qui n'avait marqué qu'une seule fois avec les Girondins depuis son arrivée l'été dernier et qui, à Caen, a fait sa première apparition face à Saint-Etienne, marqué son premier but face au PSG, excusez du peu, avant d'en inscrire 3 autres. Très important, Emiliano Sala. Il y a également Nicolas Benezet qui a été recruté à Evian Thonon-Gaillard et qui a marqué le troisième but face à Marseille, le but de la victoire. Ouais. Donc le mercato a été très réussi. L'équipe de Caen est revenue de cet enfer qu'avait été la première partie de saison. Elle a d'ailleurs marqué plus de points lors des 7 dernières journées que pendant toute la phase aller. Le coup de chance, ça a été aussi d'avoir affronté le Paris Saint-Germain qui était réduit à 9 contre 11 et de faire match nul contre les Parisiens et puis également d'affronter une équipe de Marseille qui à ce moment-là était kamikaze au niveau de la défense. C'est le mot qui a été employé par l'entraîneur de Marseille, Marcelo Bielsa. Donc un petit coup de chance, un mercato réussi et puis un climat apaisé aussi parce que l'affaire des matchs truqués dans lequel est impliqué Caen, des matchs truqués en Ligue 2 l'année dernière, est passée maintenant et tout le monde l'a un petit peu oublié. C'est en train de revenir, donc on verra comment Caen se comporte maintenant. Mais Caen, effectivement, a réussi à renaître de ses cendres.
Complètement même, complètement. Il reste encore 10 matchs à jouer avant la fin de la saison. Ils ont de quoi être optimistes à Caen.
Ils ont forcément de quoi être optimistes.
À
forcément.
Suivre. Merci Antoine Grenier d'être venu répondre à Joseph, passionné de football et qui suit de très très près le championnat français. Reste avec nous tout de suite le journal.